France Culture et les 16h. Tout de suite, Sciences Publiques, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques pour cette émission qui s'inscrit dans la série que vous propose Culture Science depuis le début de cette semaine sur le thème CRISPR-Cas9, où nous mènera la nouvelle révolution génétique. Pour ce dernier volet, nous sommes en direct et en public depuis le Salon du Livre à Paris et vous pouvez nous adresser vos réactions et commentaires au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Faut-il poser des limites éthiques à la modification de l'ADN ? Nous voici donc dans le temple de l'écriture où nous allons parler d'un sujet qui présente un point commun improbable entre la recherche en génétique et l'univers du livre, l'édition. C'est en effet le terme utilisé en anglais pour désigner l'action de CRISPR-Cas9. Cette technique sert à éditer le génome des organismes vivants. Cela signifie qu'elle fonctionne d'une façon similaire au traitement de texte. L'analogie est d'autant plus frappante que l'ADN, molécule qui contient l'information génétique, est constituée de 4 bases nucléiques identifiées par leurs initiales, ACGT. La technique CRISPR permet d'effectuer les opérations classiques du traitement de texte, couper, coller, remplacer. Ceci sur le long ruban de la double hélice de l'ADN. Il devient alors possible de modifier le texte fondateur qui détermine toutes les caractéristiques d'un organisme, de la même façon que l'on corrige les épreuves d'un livre. Les émissions de Culture Science de la semaine, en particulier Continent Science lundi dernier et Révolution Médicale mardi, ont exploré les mécanismes biologiques exploités par CRISPR-Cas9. Nous allons aborder aujourd'hui les impacts potentiels de cette technique en matière d'éthique, alors que des centaines de laboratoires étudient déjà cette méthode, aussi bien aux États-Unis et en Europe qu'en Chine. Les premiers organismes vivants modifiés apparaissent déjà. Ainsi, en septembre 2015, un nouvel animal de compagnie sous la forme d'un cochon miniature, créé par l'Institut BGI Shenzhen en Chine à l'aide de CRISPR-Cas9, a été mis en vente au prix de 1 600 $ l'unité. Certains parlent d'un véritable zoo d'animaux modifiés, où l'on trouve aussi bien des poules, des abeilles, des moustiques, des porcs et des chiens que des singes. Un chercheur rêve même de ressusciter des mammouths. D'autres tentent encore en Chine d'agir sur les cellules d'embryons humains. L'ensemble de ces manipulations du vivant, qui prennent la suite de la sélection par croisement et des fameux organismes transgéniques, posent des questions éthiques. C'est la possibilité de modifier le génome humain et de rendre ces modifications sexuellement transmissibles qui agite particulièrement la communauté scientifique, au point que l'une des deux biologistes qui ont inventé CRISPR-Cas9, l'américaine Jennifer Doudna, a publié en décembre 2015 un article dans la revue Nature où elle révèle souffrir de troubles du sommeil depuis près de 2 ans en raison des questions qu'elle se pose sur l'utilisation de cette technique qu'elle a développée avec la Française Emmanuelle Charpentier. Ce sont ces interrogations cruciales aussi bien pour l'avenir de la recherche en biologie que pour celui de l'espèce humaine dont nous allons débattre aujourd'hui dans Sciences Publiques avec nos invités. Nous recevons donc en direct et en public depuis le Salon du Livre Jean-Michel Beignet, philosophe, professeur à l'Université Paris-Sorbonne et directeur de l'équipe de recherche Rationalité Contemporaine. Hervé Schneweis est neurobiologiste et neurologue, président du comité d'éthique de l'INSERM et directeur du laboratoire de neurosciences de Paris-Seine. Et Jean-Yves Nau est journaliste à Slate.fr, docteur en médecine, auteur du blog Journalisme et Santé publique. Je vous rappelle que vous pouvez nous adresser vos réactions et commentaires en bas de la page internet de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Hervé Schneweis, bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce débat, d'autant que bon nombre de vos collègues ne semblent pas tout à fait prêts à s'exprimer sur ce sujet. Certains jugent même qu'un débat sur les implications éthiques de CRISPR-Cas9 est prématuré, dans la mesure où l'efficacité de cette technique n'aurait pas encore été suffisamment démontrée. Qu'en pensez-vous ?
Deux choses. D'une part, un débat éthique n'est jamais prématuré. Il faut toujours avoir le débat sur le sens et sur les implications d'une recherche scientifique, dans notre cas, avant même toute possibilité d'application. Cette anticipation, cette transparence, ce processus continu est une nécessité et au niveau des organismes de recherche, c'est quelque chose que nous développons. La deuxième raison, c'est que on est face à une technologie de rupture. Il est clair qu'il y a un avant CRISPR-Cas9, moi je prononce en anglais, mais et puis un après. La rapidité scientifique de la diffusion, plus de 1000 articles déjà publiés sur utilisant cette technique, les impacts économiques immédiats, plus d'un milliard de dollars déjà investis dans des entreprises de biotechnologie qui développent les produits autour de CRISPR-Cas9 et une dizaine de sociétés de biotechnologie. Les potentialités de l'utilisation, bien sûr, dans des laboratoires de recherche à des fins de recherche, mais aussi de différentes applications, et on parlera de ces différentes applications, ont déjà suscité des débats au sein de la communauté scientifique. Et ces débats, ils ont commencé dès le tournant, le début de l'année 2015, donc il y a un peu plus d'un an. Pour ce qui concerne l'INSERM, nous avons commencé à en débattre à ce moment-là, et nous avons déjà produit une première note qu'on peut trouver sur le site du comité d'éthique de l'INSERM. Cette première note, elle fait le point des endroits, des lieux de connaissance dans lesquels l'application de cette technique CRISPR-Cas9 pourrait poser problème. Alors même si nous ne devons pas vivre dans une idéologie de la promesse, parce que effectivement l'application de la technique est aujourd'hui de l'ordre du futur, on est quand même dans un futur suffisamment proche pour pouvoir se poser des questions. Et donc, on va séparer des applications médicales d'applications non médicales. La question de l'application à des cellules somatiques, de l'application à des cellules qui pourraient être germinales, donc transmissibilité ou non de la modification génétique. L'application à l'homme ou l'application aux animaux ou l'application aux végétaux, avec tout le questionnement qui peut être suscité sur les impacts environnementaux de l'utilisation de la technique.
Très bien, donc voilà un programme effectivement que nous allons essayer de suivre. Jean-Yves Venot, bonjour.
Bonjour.
Donc en tant qu'observateur attentif de ces progrès apportés par CRISPR-Cas9, je poursuis en français, pensez-vous que le moment de débattre au sein de la société de ces questions éthiques posées par cette technique est venu également?
Je pense d'abord que c'est très bien que nous réunissiez autour de ce thème, même si ça a été difficile de réunir des volontaires pour participer à un débat de ce type. Mais à la frilosité que vous évoquiez tout à l'heure, manifestée par ceux qui ne voulaient pas venir à ce micro de France Culture, moi je vois plus une frilosité, Hervé Schneweis me contredira, une frilosité pratiquement institutionnelle. Moi ça fait plusieurs mois que pour Slate ou pour mon blog je cherche à avoir des interlocuteurs, à essayer de raconter ce qui se passe à la fois dans les publications scientifiques. Ça, pour ça, il n'y a pas de souci. Les publications scientifiques sont ce qu'elles sont et elles continuent sur ce thème comme sur d'autres. En revanche, les institutions interrogées sur la légitimité de certaines applications, et je pense en particulier, on en parlera, à l'application de cette technique aux cellules sexuelles humaines, là, on se heurte à un mur institutionnel plus qu'à un mur individuel. Mais les institutions, alors, certes, j'ai entendu ce qu'il y avait sur le site de l'INSERM, mais à la différence de ce qui se passe, me semble-t-il, aux États-Unis d'une part et en Grande-Bretagne, la France est incroyablement frileuse, que ce soit la quasi-totalité des organismes qui sont en charge de la recherche médicale et, a fortiori, le Comité national d'éthique. On a l'impression que c'est presque dérangé ou malpoli que d'évoquer cette question, et non peut-être pas l'idéologie de la promesse qu'elle sous-tend, mais la casuistique de l'angoisse qu'elle pourrait susciter.
Alors justement, Jean-Michel Beignet, bonjour.
Bonjour.
Alors, promesse ou risque et inquiétude face à ce type de technologie?
Je crois qu'il y a un petit peu tout cela à la fois. Hein. Les promesses, elles tournent autour de la remédiation que cette technologie va autoriser. De ce point de vue-là, je pense qu'on est dans la foulée des promesses portées par les thérapies géniques. Et puis, menace, évidemment, parce que on ouvre la porte à la transformation et par conséquent aux atteintes portées au hasard qui est quand même constitutif de la vie biologique. Donc, du coup, on se retrouve face à une technique avec les comportements qu'on a régulièrement face aux techniques, à savoir attraction et répulsion. On est dans cette posture-là, d'où le besoin effectivement de faire appel à l'éthique pour essayer de placer le curseur au bon endroit entre promesse et menace. Je crois que le débat pour l'instant il se situe là.
Alors pour bien comprendre de quoi on parle, peut-être faut-il brièvement, parce que comme je l'ai dit en introduction, d'autres émissions de Culture Science ont traité ce sujet en début de semaine, mais revenir Hervé Schneweis sur les possibilités ouvertes, au moins potentiellement, par cette nouvelle technologie qui est CRISPR-Cas9.
Alors c'est une technologie, pour aller vite, qui a l'avantage d'être extrêmement efficace, peu coûteuse et très simple de mise en œuvre. On va dire qu'il y a deux composants, l'un qui est ce fameux CRISPR, qui est une sorte d'aimant qui va aller se mettre sur une région du gène. Et puis un ciseau moléculaire, on appelle ça une nucléase dans notre langage, ce Cas9, qui va venir couper l'ADN à cet endroit-là. Si on fait simplement une coupure de l'ADN, les systèmes de réparation de la cellule vont soit pouvoir le réparer correctement, soit pouvoir le réparer mal en introduisant une ou deux paires de bases. S'il est mal réparé, le gène sera cassé et donc son expression sera interrompue. On peut aussi apporter un système de copie ou de guidage qui va faire que le gène qu'on est venu casser va être remplacé par un gène copié, corrigé. C'est pour ça qu'on utilise cette comparaison avec l'édition des livres, correction d'une phrase ou correction d'un mot. Et puis maintenant, on peut aussi utiliser ce système aimant plus protéine guide pour modifier l'expression du gène, c'est-à-dire le faire s'exprimer plus ou le faire s'exprimer moins. Donc une régulation beaucoup plus fine. Alors bien entendu, c'est un outil de recherche extraordinaire à cause de la précision de la technique, à cause de la facilité de mise en œuvre, à cause de l'efficacité. Et c'est pour cela que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 1000 articles scientifiques sont déjà publiés utilisant cette technique et elle est en train de mettre au rebut d'autres techniques qui étaient utilisées par avant mais qui ne sont plus utilisées. Au fond, c'est un peu comme le smartphone en comparaison du Bebop ou du téléphone de voiture dont on a même oublié aujourd'hui qu'il avait existé. À côté de cela, je ne serai évidemment pas d'accord avec Jean-Yves Naud parce que, comme je l'ai rappelé, notre gouvernance à l'INSERM nous a saisi en tant que comité d'éthique de l'INSERM de la question il y a plus d'un an.
Les publications initiales datent d'il y a à peu près 2 ans.
Voilà. Donc très rapidement, il y a eu une réaction de la gouvernance et des chercheurs et donc nous avons commencé à travailler la question et encore une fois les premières notes ont été publiées, ont été produites en septembre-octobre. Alors peut-être il n'y a pas de communication officielle et par ailleurs le comité consultatif national d'éthique est en train de travailler sur un rapport qui sera probablement produit d'ici 1 à 2 mois, donc il y aura une réponse aux questions de Jean-Yves Naud. Je crois que il n'y a pas de frilosité, mais il y a très probablement le fait que la technique se répand comme une traînée de poudre, que les choses vont extrêmement vite. On parlait, alors que la découverte a été publiée en 2012, en tout cas la découverte en tant que modification des gènes, parce que la découverte originale de CRISPR, c'est un Espagnol peu connu aujourd'hui qu'il l'a découvert au tournant des années 90, et 2 Français tout aussi peu connus qui ont montré que c'était le mécanisme de défense des bactéries contre les virus autour de 2005. Donc c'est pas totalement nouveau, mais l'application de la technique pour faire de la modification de gènes, elle date de 2012, et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Donc, effectivement, on peut peut-être reprocher à quelques gouvernances d'avoir manqué un peu de réactivité. Maintenant, il y a des conférences internationales qui ont été organisées dès l'automne dernier, en particulier une conférence internationale à Washington. Les académies des sciences, par exemple, l'Académie européenne des sciences, ont publié déjà des choses au cours de l'automne 2015. Et puis, de façon plus globale, les Européens sont en train de s'organiser pour essayer d'avoir une réponse commune. Et nous avons réuni, l'INSERM a réuni pas plus tard que mercredi dernier, donc il y a 3 jours, une réunion européenne qui est de très haut niveau. Il y avait une 60aine de représentants de différents pays européens pour essayer d'avoir une position cohérente par rapport aux différents sujets qui se posent. Oui, quelle est l'implication des changements, des modifications de l'ADN, ça va pas du tout être la même chose si on agit sur un organisme qui se renouvelle rapidement, par exemple un moustique, et là, une modification peut être rapidement transmise, ou si on agit sur un organisme qui se modifie très lentement, l'homme, une génération toutes les 25 ans, et là, pour qu'une modification soit transmissible, il peut se passer des siècles.
Alors Jean-Yves, nous, on voit déjà apparaître des nouveaux organismes qui utilisent, sur lesquels on a utilisé cette technique, qui sont tout un bestiaire de chiens, de mini cochons, des petits porcs qui visent à être des animaux de compagnie nouveaux. Donc là, en même temps que cette réflexion commence à se faire, les Chinois en particulier, parce que c'est souvent de là-bas que les choses arrivent dans ce domaine, sont passés à l'acte déjà de façon très très active.
Oui, je réponds quand même en un mot à Hervé Schneider. Je suis pas en train de nourrir des théories complotistes sur ce que pourraient cacher les institutions, et je suis pas non plus en train d'accuser qui que ce soit de ne pas répondre aux fonctions pour lesquelles il existe. Alors disons qu'il y a une forme de dépit amoureux peut-être. C'est simplement de voir que en France, à la différence notamment de ce qui se passe en Grande-Bretagne, où un journal comme The Economist a déjà fait plusieurs unes sur cette technique et tente d'expliquer à ses lecteurs, un journal généraliste, la totalité des aspects de la question, ses aspects positifs et les angoisses qu'elle permet de nourrir, la France n'est pas dans cette dynamique. Et ce dépit amoureux est d'autant plus grand que la France a toutes les institutions depuis, en particulier 1983 et la création du Comité national d'éthique, pour justement être en phase. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que après ce que vous évoquez, puis je vais y revenir, c'est-à-dire cette possibilité, cette expérimentation chinoise sur des embryons humains, il ne s'agit pas de lézards, de cochons ou de pommes de terre, sur des embryons humains testés et essayer de voir comment on pourrait modifier, c'est-à-dire éditer, mais le terme n'est pas bon, rééditer ou faire une nouvelle édition du génome humain, c'est-à-dire quand même très précisément la frontière à laquelle personne jusqu'à présent n'a osé s'approcher et a fortiori franchir. Face à ça, la France est absente, totalement absente. Alors ici ou là, on voit des spécialistes français qui vont à la conférence organisée par l'Académie des sciences de Chine et des États-Unis à Washington. On voit ici ou là apparaître en surface des micro-interrogations. Mais il n'y a pas un débat structuré, citoyen, abordant les différentes questions, et en particulier celle qui est nouvelle, c'est-à-dire celle qui est totalement différente des ciseaux génétiques qui avaient beaucoup inquiété à la fin des années 70, puisque grâce à cette facilité très grande que vous venez d'évoquer, Hervé Schneevas, il y a cette possibilité d'aller enfin toucher au patrimoine génétique humain, mais pas n'importe où, dans des cellules sexuelles qui permettraient d'avoir des modifications inconnues, positives, on ne sait pas, mais en tout cas inconnues, et qui seraient transmissibles. C'est là qu'est la frontière, et c'est là qu'est l'essentiel du débat éthique. On peut parler technique indéfiniment, mais pour moi, cette grande avancée technique permet de poser des interrogations éthiques, je sais que le mot est un peu galvaudé, mais des interrogations éthiques qui ne sont pas encore posées en France.
Jean-Michel Beignet, peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit.
Sauf que
on est en train de tourner autour de la question de l'eugénisme, tout simplement. C'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt et de savoir exactement jusqu'où on veut aller dans ce sens de l'eugénisme. Alors, je suis assez d'accord avec Jean-Yves Nau. J'ai l'impression que en France, on est très très frileux lorsqu'il s'agit de poser la question dans ces termes-là. Moi, je vois évidemment un certain nombre de mouvements transhumaniste ou pas, ou technoprogressiste ou qui se s'appelle autrement, qui prennent en charge effectivement cette question, mais qui le font la plupart du temps sur un mode extrêmement désinvolte, galvaudé, fantasmatique, et je regrette qu'il n'y ait pas une instruction de la question un peu plus maîtrisée, de sorte que ce ne soit pas des mouvements ludites style pièce et main d'œuvre qui viennent monter au créneau pour diaboliser d'emblée une technologie dont on n'a pas encore exactement examiné publiquement les possibilités.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonti.
Faut-il poser des limites éthiques à la modification de l'ADN? C'est la question dont nous débattons aujourd'hui avec nos invités. Jean-Michel Beignet, philosophe, professeur à l'université Paris-Sorbonne. Hervé Schneeweis, neurobiologiste, président du comité d'éthique de l'INSERM. Et Jean-Yves Naud, journaliste à Slate.fr et auteur du blog Journalisme et Santé publique. Alors, le mot a été cité. D'abord, je crois que Hervé Schneeweis voulait réagir à ces deux précédentes interventions.
Oui, parce que je suis totalement ouvert au débat et je pense que ce débat est nécessaire. Mais la France a une attitude particulièrement claire, particulièrement nette, particulièrement indiscutable. Tout ce qui est de l'ordre de la recherche, et je parle bien de la recherche, quel que soit l'objet de la recherche, est particulièrement encadré, fait l'objet de l'encadrement par les lois de bioéthique qui ont été révisées. Et pour pouvoir faire des recherches sur les cellules sexuelles ou sur l'embryon, il faut un protocole scientifique déposé auprès de l'Agence de la biomédecine et approuvé par le comité d'orientation de l'Agence de la biomédecine. Donc la loi, elle est parfaitement claire et très peu, on les compte sur les doigts d'une main, sont les équipes en France capables de proposer un tel protocole de recherche. Et par ailleurs, la loi est particulièrement claire tout autant. Il est interdit de mener une quelconque recherche dans la perspective de réimplanter. Donc jamais en France, une quelconque recherche, un quelconque travail utilisant ces techniques de modification de l'embryon ne pourra avoir comme objectif de faire naître un enfant modifié. Donc la loi française, elle est d'une clarté limpide, prohibition de toute possibilité de réimplantation d'un embryon qui aurait fait l'objet d'une recherche. Donc, je ne vois pas en quoi il y a une frilosité ou il y a une ambiguïté. Au contraire, la loi, elle est d'une rigueur et d'une prohibition absolue. Et à partir du moment où la loi interdit, effectivement, peu de discussions restent possibles. Alors après, on a des discussions théoriques. La discussion que voulait lancer Jean-Michel sur le transhumanisme, c'est peut-être une discussion qu'on peut avoir en Chine ou aux États-Unis. Il y a des discussions qui peuvent avoir lieu en Grande-Bretagne. Par exemple, une autorisation de recherche sans aucune possibilité de réimplantation. Et il est clair dans l'autorisation que la HFEA, l'autorité britannique, a donnée à Madame Niacan, il y a interdiction de réimplantation des embryons qui auront fait l'objet d'une recherche. Eh bien, ça, c'est possible en Grande-Bretagne, mais la discussion ne veut même pas avoir lieu en France parce que la loi l'interdit. Donc, la France est très claire là-dessus.
Ça veut dire que peut-être en France...
Aux grandes dames de beaucoup de scientifiques qui aimeraient qu'on les laisse travailler.
L'encadrement est peut-être très présent en France, mais on ne peut pas se désintéresser ou ignorer ce qui peut se passer à l'étranger dans la mesure où...
On peut débattre, mais on ne peut pas dire que la situation n'est pas claire en France ou que la France serait frileuse. Au contraire, elle est rigoriste.
On parlait de frilosité vis-à-vis du débat, pas tellement de la technologie. Jean-Yves Naud, et ensuite... Jean-Michel Beignet voulait intervenir.
Oui, juste un mot. Je t'entends, Hervé, parler de recherche, mais on a affaire là à des technologies. On est dans de la biotechnologie. La recherche, elle implique là des possibilités d'intervention. Or, parlons un peu de la biologie de synthèse. On a parlé souvent de la biologie de synthèse comme étant la porte ouverte à des manipulations possibles du vivant de manière extrêmement souple, extrêmement simple. On a parlé des biologistes de garage qui illustrent cette biologie de synthèse. Comment éviter et comment empêcher que CRISPR-Cas9 ne soit pas l'un des ingrédients de cette tentative pour produire des créatures vivantes qui n'existent pas dans la nature? C'est la définition qu'on donne de la biologie de synthèse, pouvoir produire des créatures vivantes qui n'existent pas dans la nature. Bon, comment réguler cela? Comment anticiper cela? Il me semble que les lois qui existent bel et bien chez nous, et ça j'en suis bien d'accord, ce sont des lois cadres, hein, elles peuvent intervenir effectivement globalement, mais sur des cas tangibles comme cela, comment l'éviter?
Jean-Yves Naud, peut-être d'abord, ensuite évidemment Hervé Schneeweis.
C'est toujours un plaisir de débattre avec le philosophe et avec Hervé Schneeweis. Cette loi actuelle, qui est la loi de bioéthique, qui interdit effectivement de manipuler le génome des cellules sexuelles humaines, on peut penser raisonnablement qu'elle n'est pas éternelle. Certes, elle est inscrite dans le marbre, mais même le marbre peut être abrasé et retaillé. Donc cette loi, il est clair qu'elle sera modifiée, et il est clair que la communauté scientifique, c'est vous-même qui le dites, bouillonne, elle a envie de travailler ces questions. Donc, raison de plus, me semble-t-il, et là encore dans un esprit citoyen, pour débattre, alors même que précisément ces applications ne sont pas encore espérées ou menaçantes.
Alors, qu'est-ce qui pourrait justement motiver une réécriture de ces lois, le fait de les revisiter à la lumière de cette nouvelle technologie? Est-ce que, par exemple, si on était capable de supprimer du génome d'un enfant à naître une maladie génétique transmise par ses parents, est-ce que on pourrait maintenir cette loi dans un contexte pareil, alors que, voilà, une possibilité de naissance d'un enfant débarrassé de cette maladie devient techniquement possible?
Alors c'est là où il ne faut pas se laisser entraîner par le mirage de la technique ou par l'idéologie de la promesse. La question fondamentale là, c'est celle du sens de l'utilisation de la technique. Et je suis d'accord avec Jean-Michel Beignet qu'une technique n'est qu'une technique. On peut utiliser la technique de la poudre pour se défendre. Certains l'ont utilisée pour arroser des terrasses de café et massacrer des jeunes Parisiens il n'y a pas très longtemps. Tout cela n'était qu'une question de technique et ensuite de l'utilisation. Alors on n'en est pas du tout là, parce que les enjeux scientifiques, c'est qu'aujourd'hui, pour prévenir des maladies génétique d'une particulière gravité dans une des familles où on les a identifiées, dans la plupart des cas, et dans la plupart des cas, ça veut dire 9 cas sur 10 si ce n'est plus, ça peut être résolu par les techniques actuelles, en particulier par le diagnostic pré-implantatoire.
Donc c'est l'élimination
diagnostic pré-implantatoire qui peut être et qui doit être beaucoup plus développé. Donc pourquoi utiliser une nouvelle technique qu'il faudrait de toute façon évaluer, qui poserait des problèmes d'évaluation, pour des tas de raisons toxicologiques sur lesquelles je n'aurais pas le temps de venir là. Pourquoi utiliser une nouvelle technique, tout ça parce qu'elle est nouvelle, alors que d'autres techniques existent? Et ensuite, pour le cas sur 10 dans lesquels nous ne pourrions pas utiliser ces techniques, eh bien, il faudrait envisager avec les associations de patients, avec les citoyens, avec des collèges de scientifiques et de médecins, quel serait le sens de prendre un risque dans ces quelques rares cas? On va dire que ça va se poser entre 1 et 10 fois par an pour un pays comme la France. Faut-il faire des lois pour encadrer des applications qui pourraient concerner 1 à 10 personnes? Non, la vraie question d'utiliser des techniques comme CRISPR-Cas9 aujourd'hui, en dehors des questions scientifiques, c'est des questions comme par exemple la malaria. La malaria, c'est le paludisme, c'est une maladie transmise par un parasite, Plasmodium falciparum, via les moustiques. Il faut toujours rappeler que l'animal le plus terrible pour l'homme, qui fait plus d'un million de morts par an, c'est le moustique. Et le moustique transmet en particulier le paludisme. Et ça, c'est 438 000 morts par an. Chaque année, il y a 438 000 morts par an par le paludisme. Grâce à une technique qu'on appelle le guidage de gènes, le gene drive, il serait possible, via les techniques CRISPR-Cas9 et ce guidage de gènes, d'éliminer les moustiques Anopheles gambiae en particulier qui transmettent le paludisme en les rendant stériles, ou d'essayer de modifier le génome du moustique pour qu'il ne puisse plus transmettre le parasite. D'un côté, on a une promesse absolument extraordinaire. Éradiquer le paludisme, éradiquer une maladie qui tue 438 000 personnes chaque année. De l'autre côté, un impact sur l'environnement, la suppression d'une population de moustiques en les rendant infertiles, dont nous ne connaissons pas les conséquences, et peut-être des conséquences inconnues qui pourraient tuer plus que 438 000 personnes. Et là, on a une vraie question éthique. D'un côté, des morts qu'on identifie, qui sont des vrais morts, même s'ils ont souvent la peau noire et qu'ils habitent loin de chez nous, mais ces 438 000 morts sont souvent des enfants. Et de l'autre côté, un éventuel impact sur l'environnement que nous ne savons pas aujourd'hui mesurer. Voilà une belle question éthique et scientifique, et beaucoup plus réelle que de manipuler des embryons.
Jean-Michel Beignet.
Oui, c'est une belle question, parce qu'effectivement, elle pose le problème en termes systémiques, à proprement parler. Et de fait, dans le domaine de la bioéthique, c'est toujours dans ce sens qu'il faut poser la question. Éradiquer une maladie, soit, Maintenant, méconnaître le fait que la maladie elle-même peut avoir quelque chose comme son bénéfice dans une certaine situation écologique, bah, c'est une vraie question. Éradiquer le diabète, certes, tout le monde le voudrait, bon, mais on fait valoir volontiers que le diabète, dans certaines situations, de famine par exemple, le diabète peut avoir son utilité dans un contexte de sélection et d'évolution. Donc, on ne manipule pas la nature impunément, on le sait très bien, et c'est précisément ces questions-là qu'il faut vouloir aborder, et les aborder avec un décentrement tel que, précisément, on puisse prendre en compte la dimension systémique de la modification qu'on opère. Et je crois que les comités d'éthique ont précisément cette mission-là, hein, de relativiser l'approche que nous faisons des problèmes, de ne pas se laisser complètement captiver, en quelque sorte, par les intérêts immédiats, et essayer de penser à grande échelle. Et c'est pour ça que bon, CRISPR-Cas9 est sans doute l'occasion de poser de manière cruciale ces problèmes, parce que justement son accessibilité paraît tellement facile qu'elle va créer en quelque sorte des illusions qui risquent de nous aveugler sur la question générale de savoir si les technologies qui veulent toujours en finir avec le hasard, eh bien, appliquées à l'humain, ne nous exposent pas finalement à des situations qui peuvent être à terme dramatiques.
Jean-Yves Nau.
Vous me posez une question ou
pas du tout, hein, je donne la parole. Je peux vous poser une question. Est-ce que cet exemple du paludisme n'est pas révélateur de la puissance de cet instrument et justement des questions qui... Là, c'est un exemple qu'a donné Hervé Schneweis, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres qu'on peut imaginer, où il y aura cette balance à établir entre les bénéfices et les risques, en gros.
Mais des sujets comme celui-ci, l'éradication éventuelle des moustiques et les éventuelles conséquences écologiques, environnementales, de l'éradication de la totalité des populations de moustiques, à travers le monde. D'ailleurs, il y a des mouvements écologistes qui ont déjà commencé à réfléchir au sujet et qui militent contre l'usage de l'éventuelle technique génétique, tout comme ils militent contre l'usage des insecticides pour des conséquences environnementales. Donc, est-ce qu'il faut continuer à vivre avec des moustiques, avec toutes les conséquences qu'on connaît, ou est-ce qu'on peut tenter quand même, ici ou là, après avoir inventé les moustiquaires, d'inventer des techniques un peu plus performantes qui permettraient d'en finir?
Sachant qu'Hervé Schneweis a quand même évoqué l'hypothèse d'empêcher la transmission de ces maladies, sans éradiquer totalement les populations, ce qui permettrait d'atténuer.
Mais je ne suis pas omnubilé sur la question des embryons humains et des cellules sexuelles humaines. C'est un sujet formidable. Et c'est un sujet sur lequel des tas de gens ont des tas de choses à dire, à réfléchir, à envisager, etc. Mais ce débat, qui l'organisera en France? Quand? Comment? Sous quelle forme? En France ou ailleurs, d'ailleurs. Mais des sujets comme celui-là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, et qui sont tous passionnants, qui touchent au végétal ou qui touchent à l'animal. On ne peut pas, pour ce qui nous concerne, nous interdire de réfléchir aussi à l'humain. Et c'est cette question-là qui me semble sous-traitée. Il se trouve que pour préparer votre émission, j'ai essayé de me documenter. Malgré tout, j'ai quand même trouvé des gens qui réfléchissent à la question, en particulier l'Académie nationale de médecine, qui a fait une note ou un rapport sur le sujet qu'elle n'a pas encore diffusé, et où, à la lecture duquel, on voit très bien qu'il y a des gens qui bouillonnent, et on peut les comprendre dans les laboratoires, des généticiens qui ont envie d'utiliser cette technique, d'ailleurs développée et brevetée en partie par une chercheuse française qui travaille en Allemagne. Donc on est vraiment là sur un sujet, comment dire, très chaud, très d'actualité, qui n'est pas vraiment à la mode, mais qui se pose, c'était vraiment une priorité qui se pose, et le rapport de l'Académie de médecine, tout en rappelant les interdits de la loi française tels qu'ils existent, souhaite qu'on puisse mener des recherches avec CRISPR sur les cellules sexuelles humaines.
Alors il y a les cellules sexuelles humaines, et il y a aussi une forme de banalisation qui peut arriver de l'utilisation de cette technologie. On voit que les Chinois ont choisi de modifier des animaux de façon assez nombreuse. On voit des chiens qui deviennent extrêmement musclés pour pouvoir courir plus vite. On voit des porcs qui seront plus petits parce que c'est quand même plus mignon et quand on veut les utiliser comme animaux de compagnie. On voit des chèvres qui auront plus de muscles et plus de poils quand il s'agit d'exploiter certaines l'application de leur fourrure. Enfin, on voit plein de possibilités. Et petit à petit, est-ce qu'on va pas vers une banalisation? C'est-à-dire, au fond, si on a commencé avec les animaux de compagnie ou avec les animaux d'élevage, et que petit à petit, on va pas tenter effectivement d'arriver à d'autres applications et pourquoi pas à l'homme?
Mais la question fondamentale, c'est celle du mouvement qui a commencé avec les Lumières, au siècle des Lumières, et que Descartes avait résumé par l'homme comme seul maître et possesseur de la nature. Le fait d'avoir sélectionné les vaches Holstein qui produisent 1000 litres de lait par... je ne sais plus par combien, mais enfin, qui sont des hyperproductrices de lait, c'est une sélection qui a été faite. Aujourd'hui, cette sélection, elle va être augmentée, améliorée, accélérée par différentes technologies. La capacité
enfin, beaucoup plus brutalement. Aussi.
La question fondamentale, c'est la question du sens. Quel sens ça a de faire des chiens musclés? Quel sens ça a de faire des athlètes qui, par invalidation d'un gène qui s'appelle la myostatine, auraient des muscles hypertrophiés par le fait qu'une protéine qui normalement inhibe la croissance musculaire ne pourrait plus s'exprimer. Peut-être est-ce que d'ailleurs ce dopage, entre guillemets, génétique et indétectable dans l'état actuel des choses, a déjà été pratiqué depuis plusieurs années. Donc la question, c'est celle du sens. Eh bien, dans le sport,
le sport,
on considère...
Le sport donne un sens
dans le sport, on considère qu'il y a un non-sens à utiliser le dopage. Et dans le même temps, un certain nombre d'intérêts économiques ou un certain nombre d'intérêts de spectacle continuent à exiger que des cyclistes courent 200 000 km en montagne, mais arrivent qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse 40 degrés ou moins 2 à 16 heures précisément pour le direct de l'arrivée retransmis à la télévision. Donc la question, elle doit être ouverte. Elle n'est pas celle des scientifiques. Elle n'est pas celle de quelques porteurs d'opinion, même si, Jean-Yves, vous avez raison de porter le débat sur la place publique. La question, elle est une question démocratique. Que voulons-nous faire? De quelle manière voulons-nous produire nos aliments? De quelle manière voulons-nous considérer nos animaux de compagnie? De quelle manière voulons-nous considérer notre environnement? Comme disait Jean-Michel Beignet, de quelle manière voulons-nous prendre les choses de façon systémique, globale, ou voulons-nous continuer à être focalisés sur un point après un autre? C'est un enjeu démocratique où les scientifiques apportent leurs connaissances, leur éclairage, mais où le débat, il doit être public.
Jean-Michel Beignet, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, le public, justement, est en mesure de peser sur ces choix-là, ou est-ce que, peut-être, ils sont faits peu en dehors de lui?
Le public serait sans doute en mesure de peser sur ces choix-là, pour peu d'abord qu'ils comprennent les données du problème, hein, et qu'ils prennent la mesure de ce problème. Hein, parce que ça n'est pas simplement un enjeu démocratique, je dirais, il y a presque un enjeu métaphysique. C'est la conception de l'humain dont il est question ici. Parce que dans l'énumération que vous avez faite des réalisations spectaculaires, de modifications, de transformations, d'augmentation de l'animal, vous n'avez pas mentionné l'augmentation de l'humain, mais qui est quand même un problème à l'ordre du jour ici. Les Chinois avaient annoncé, il n'y a pas très très longtemps, être intervenus sur les embryons d'individus ayant un quotient intellectuel de plus de 160. Hein. Et on avait indiqué là qu'il y avait un projet monstrueux de ce qu'on appelait de boostage de l'esprit ou d'augmentation intellectuelle. Bon, c'est évidemment sans doute extrêmement emphatique, hyperbolique et exagéré. Ça n'a pas été fait, mais en tout cas, c'est quand même bel et bien de cela qu'il s'agit. Eh bien, quand on pose la question de cette augmentation de l'humain, on s'aperçoit que auprès du public, on a des difficultés à clarifier la situation. Hein, si on est capable de booster l'esprit des individus et de faire en sorte d'avoir des populations qui aient plus de 160 de QI, pourquoi ne le ferait-on pas? Hein, pourquoi ne le ferait-on pas? Ben, c'est une question qu'on peut se poser. D'où vient que on pourrait être attaché à la fragilité de l'humain? Pourquoi est-ce que on valoriserait le fait que nous ayons des déficiences alors même que nos technologies pourraient nous permettre de les résoudre? C'est dans ces termes-là, et c'est des termes qui sont philosophiques, métaphysiques, que se pose la question, et pas simplement dans des termes, disons, géopolitiques ou démocratiques.
France Culture, Sciences Publiques. Michel Albergonti.
Faut-il poser des limites éthiques à la modification de l'ADN? C'est la question dont nous débattons aujourd'hui avec nos invités Jean-Michel Beignet, philosophe, professeur à l'université Paris-Sorbonne, Hervé Schneweis, neurobiologiste, président du comité d'éthique de l'INSERM, et Jean Livneau, journaliste à Slate.fr et auteur du blog Journalisme et santé publique. On arrive au cœur de la question. Vous parliez du sens, Hervé Schneweis, mais le sens, en fait, va varier suivant les populations, peut-être les pays. À l'intérieur même d'un pays comme la France, ce que proposait Jean-Michel Beignet, c'est-à-dire d'éradiquer certaines faiblesses de l'être humain, d'augmenter certaines de ses capacités, que ce soit intellectuelles ou physiques, ben, pour certaines personnes, peuvent faire sens.
Non, il faut rester raisonnable.
L'exemple du dopage sportif le montre.
Toutes les discussions sont ouvertes, mais il y a des choses qui sont hors du champ du raisonnable. Nous savons, par exemple, depuis plus d'un siècle, que le QI ne mesure rien par rapport à l'intelligence. Il faut dénoncer cette mesure de QI. Donc, si des chercheurs chinois veulent perdre leur temps et leur argent à poursuivre cette chimère qui est la mesure de l'intelligence par le QI, nous ne pouvons pas, en tant que scientifiques raisonnables, et je suis directeur d'un laboratoire de neurosciences, nous ne pouvons pas continuer à accréditer des bêtises pareilles. Le QI ne mesure rien.
Est-ce que je peux dire un mot, là, juste sur ce point? Parce que on parlait du public. Comment se fait-il que depuis 1900, invention du QI, Alfred Binet, comment se fait-il que après les critiques radicales qu'on a adressées au QI, eh bien, dans le public, la notion de QI reste intacte, reste sacralisée, reste hyper valorisée, parce que là, on a bel et bien affaire à un gap, si je puis dire, entre les scientifiques et le public. Nous fétichisons le public, le QI dans le public, alors même que les scientifiques ricanent par rapport à cette évaluation de l'intelligence qui valorise un certain type d'intelligence au détriment d'un autre type, etc. Comment faire?
Hervé Schneweis.
C'est un scientifique qui vous parle. Je suis désolé de n'être qu'un pauvre scientifique. Et en tant que pauvre scientifique qui étudie de façon rationnelle, méthodique, avec les méthodes de la science, la question, je peux simplement dire que tous les scientifiques raisonnables, que ce soit ceux des sciences, neurosciences dures, qui regardent le cerveau fonctionner en imagerie, par exemple, ou que ce soit les sciences cognitives, disent clairement, et depuis un siècle, que le QI ne mesure rien. À côté de cela, les possibilités qu'il y aurait d'améliorer, par exemple, l'intelligence, les vraies possibilités, nous les avons vues la semaine dernière par une autre innovation de rupture qui a été cette intelligence artificielle qui a réussi à vaincre le meilleur joueur mondial du jeu de Go. Et la question, c'est que plutôt que d'augmenter l'humain avec des techniques imparfaites, difficiles, complexes à mettre en œuvre, je pense que les machines vont aller beaucoup plus vite, à être tellement plus intelligentes que ces machines vont éliminer les humains. Et il n'y aura pas besoin d'avoir recours aux méthodes de génie génétique.
Ça peut motiver les humains à essayer de résister à cette progression des machines.
Il vaut probablement pour résister, utiliser d'autres techniques que les modifications génétiques. Parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ces modifications génétiques, alors d'abord, dès cette année, probablement, des essais cliniques vont montrer qu'elles vont nous permettre de venir à bout de certaines maladies très graves. Probablement, le sida sera la première maladie vaincue grâce à ces techniques. Donc, ça n'est pas rien. Mais ensuite, si on voulait que l'espèce humaine puisse être modifiée, il faudrait plusieurs dizaines de siècles, le temps que les modifications génétiques soient transmises de génération en génération. C'est pas la même chose pour un moustique où en 2-3 ans on pourrait impacter l'ensemble d'une population à cause du cycle du moustique qui est de 20 jours, et une population humaine où le cycle de la population humaine est de 20 ans.
Jean-Yves Non, est-ce que ce problème du sens est un suffisant garde-fou contre les tentations?
Non, je crois pas. Je vais prendre l'exemple du jeu de Go et le spectacle auquel il a donné lieu, la machine qui permet de battre le meilleur joueur de... Il y aura encore plus de spectateurs le jour où on aura la même machine ou une machine améliorée contre quelqu'un dont le QI aura été augmenté. Donc, s'il y avait besoin de quelque chose...
Quelle que soit l'augmentation de son QI, il perdra contre la machine.
Ça fait un spectacle supplémentaire, c'est pas grave. Puis on en fera un autre. Mettons ça à part. Je pense que on peut entendre le scientifique dire, écoutez, restons raisonnables. Et le scientifique, ou un autre, dire, mais écoutez, c'est formidable. Nous avons un outil absolument formidable. Laissez-nous l'expérimenter. On est, avec la technique qui nous réunit aujourd'hui, précisément à ce moment précis. On en vante les mérites, vous le faites. La communauté scientifique travaille la question, elle publie. Quand elle veut bien vulgariser, ce qui n'est pas le cas en France, elle ouvre les perspectives thérapeutiques, puisque c'est souvent le vecteur, c'est le thérapeutique qui permet à une technique de s'installer. Les thérapies géniques, qui sont les ancêtres, les ciseaux d'ADN, qui sont des techniques qui sont apparues et qui d'ailleurs avaient beaucoup inquiété la communauté scientifique dans les années 70, puisque c'est elle-même qui avait dit pendant quelques semaines ou quelques mois, oula, est-ce que nous n'allons pas trop loin, est-ce que nous n'allons pas créer des bactéries que nous ne connaissons pas, et qui avait fait un moratoire, qui s'était réuni chez la conférence d'Asie Lemar, etc. Aujourd'hui, on est un petit peu dans la même situation, mais à une échelle totalement démultipliée, avec une technique qui est toujours les ciseaux génétiques, mais comme vous l'avez expliqué en début d'émission, incroyablement plus facile à utiliser, plus performante, pas très coûteuse, et qui autorise effectivement des tonnes de, qui ouvre des tonnes de perspectives, qu'elles soient thérapeutiques, c'est vrai, qu'elles soient génétique végétale ou animale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais la génétique et le végétal, c'est pas très grave, parce qu'on pourra toujours évaluer, mesurer les conséquences environnementales, et puis chercher le sens dont parlait notre philosophe à l'instant, c'est-à-dire quel sens ça a-t-il d'avoir des Doberman qui pèsent 20 grammes ou qui pèsent 500 kilos.
Tout dépend du marché qu'il y a derrière.
Tout dépend du marché, 20 grammes, a priori c'est joli. Bon, 500 kilos, on peut faire du commerce avec. Vous voyez, le sens, oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, et le sens encore plus, comment dire, prégnant, qui m'intéresse ou qui m'inquiète, ou en tout cas qui devrait, me semble-t-il, nous réunir pour débattre encore plus sur France Culture ou ailleurs, c'est la question du sens de modification du génome humain qui ne serait plus des corrections à des anomalies existantes, mais des modifications qui permettraient d'améliorer l'existant. On ne sait pas très bien quoi, la fonction visuelle, la fonction auditive, les connexions neuronales, d'autres choses encore, pour voir, ne serait-ce que d'abord pour voir, et puis ensuite, pour peut-être lutter contre la douleur. Une grande tradition, la lutte contre la douleur, ne moins souffrir, ça peut donner du sens à une modification. Vous voyez, alors bien sûr, le scientifique va dire, mais ça c'est de la science-fiction, arrêtez, dans mon laboratoire, on ne travaille pas ces questions. Moi, il me semble qu'on est en 2016 et qu'on peut commencer à réfléchir, à échanger, sans se fâcher, à débattre, à écrire.
Hervé Schneeweis, sans se fâcher.
Aujourd'hui, les vraies questions qui se posent, c'est que par exemple, la fécondation in vitro est une technique particulièrement inefficace. Trois couples sur quatre qui entrent dans un parcours de fécondation in vitro vont terminer ce parcours sans enfant. Ça veut dire que nous devons améliorer ces techniques. Comment est-ce que c'est possible ? C'est possible d'abord en comprenant le développement humain précoce, d'où des recherches pour comprendre quelles sont les déterminants, quels sont les réseaux de gènes qui s'activent. Et un outil comme CRISPR-Cas9, appliqué à la recherche, peut nous permettre de comprendre les séquences de gènes qui s'activent, les réseaux de gènes qui s'activent, et permettre peut-être demain d'avoir, j'ai bien dit peut-être, d'avoir des techniques de procréation médicalement assistée qui, au lieu de laisser trois couples sur quatre sans enfants, pourraient permettre d'avoir des technique beaucoup plus performante.
Ensuite, sur le génome.
Eh bien,
si nous étions capables de comprendre les gènes dont la mauvaise activation ou la mauvaise synchronisation, parce que c'est peut-être juste des problèmes de synchronisation, et nous serions peut-être capables de les synchroniser en modifiant les milieux de culture, en modifiant les températures, les conditions, tout n'est pas génétique. Il ne s'agit pas de rendre le ruban d'ADN une icône. La plupart des modifications sont épigénétiques au sein d'une ruche. Toutes les abeilles ont le même génome. Pourtant, la reine fait 10 cm et va vivre 3 ans, alors que les ouvrières font 1 cm et ne vont vivre que 2 mois. La différence, c'est la nourriture de la reine, la gelée royale, par rapport à la nourriture des ouvrières. Elles ont pourtant toutes le même génome. Donc, il ne faut pas transformer l'ADN en une icône. L'ADN n'est qu'un des éléments du vivant. Ce qui fait le vivant, c'est l'interaction avec l'environnement et l'interaction de cet ADN et de toute l'épigénétique avec son environnement vivant. Ce qui est l'enjeu aujourd'hui, c'est de comprendre, et peut-être dans certains cas, quelques applications.
Jean-Michel Bénier, ou...
l'image d'Hervé Schneweis, enfin l'image. La fécondation in vitro, le jour où elle sera, grâce à cette technique, à cet apport technique, plus efficace que la fécondation actuelle, la plus utilisée, à savoir celle qui survient au moment d'un rapport sexuel, le jour où l'efficacité sera plus grande, ça posera de nouvelles questions. On pourrait commencer dès maintenant à réfléchir aux conséquences d'une fécondation, d'une procréation médicalement assistée qui fournirait plus de bénéfices sanitaires, d'efficacité, etc., que la reproduction sexuée telle qu'elle existe depuis que l'homme existe et que les mammifères existent.
Voilà, c'est ce la concurrence n'existe pas puisque la fécondation in vitro, comme vous l'avez dit,
est très peu efficace. Depuis 1945, on a dissocié la sexualité de la procréation, ça a été tous les contraceptifs, puis on a dissocié la procréation naturelle de la procréation médicalement assistée. C'est un mouvement global de la société. Est-ce que demain on en arrivera, comme le propose Henri Atlan, à l'utérus artificiel ou à des techniques totalement artificielles? C'est encore une autre question et qui ne concerne plus du tout CRISPR-Cas9.
Absolument. Jean-Michel Bénu.
Oui, moi je suis assez satisfait de voir que c'est un scientifique, Hervé Schneweis, en l'occurrence, qui met en avant la question du sens. Disons, c'est ça le plus urgent, peut-être, c'est d'examiner le sens que peuvent avoir les possibilités technologiques que nous nous sommes arrogées sur la nature et sur l'humain.
Mais ce sens peut varier d'une époque à une autre, d'un pays à un autre, et même à l'intérieur d'une population, entre différents
d'une
groupes.
D'une part, qui dit sens relatif, dit relativité du sens, relativité par rapport à des cultures, à des environnements, etc. Mais d'une façon plus générale, moi je dirais que la question du sens, elle se pose particulièrement dans une société qui met en avant la performance. Nous sommes dans une société qui veut de la performance. Et la performance, eh bien, en général, ne s'accommode pas avec la dimension de réflexion qu'exige la détermination du sens. Et c'est ça, toute notre ambiguïté. Hein, c'est qu'on est pris dans cette espèce de dynamique de fuite en avant, hein, qu'autorisent nos technologies, et Dieu sait si nous nous gargarisons de constater que nos technologies nous permettent d'aller très très vite, hein, et de battre des records à tous les niveaux. Et puis, bah, de temps en temps, hein, on panique devant les ouvertures que nous frayons avec nos technologies. À ce moment-là, on veut se replier sur le sens. Notre société, il faut bien le voir, a érigé en valeur absolue la réactivité, être réactif. Comment voulez-vous maintenir la dimension de réflexion et la dimension de délibération qui nous autoriserait justement à déterminer le sens et les valeurs que nous voudrions suivre ?
Hervé Schneweis, sur cette compétition entre sens et peut-être performance ou réactivité dont parle Jean-Michel Bénier.
Écoutez, notre métier de scientifique, c'est de faire progresser la connaissance. À côté de cela, on est au Salon du Livre, donc on va renvoyer à deux lumières qui nous ont éclairés au cours des 50 dernières années. Georges Canguilhem, je crois qu'on ne peut difficilement parler du sens dans la biologie sans évoquer le nom de Canguilhem, qui disait déjà, il y a plus de 40 ans, qu'il n'y avait pas de réflexion sur la biologie hors du sens qu'on donne au vivant et qu'on donne à l'acte médical comme à la recherche en biologie. L'autre grand penseur de ces questions, c'est Michel Foucault, bien évidemment. Et là, je renverrai à des livres comme La naissance de la clinique, dans lequel il montre bien que on passe d'une médecine au 19e siècle où on demandait aux patients « qu'avez-vous ?» à un médecin qui demande avec l'ANEC « où avez-vous mal ?» Le « où avez-vous mal ?» initie la recherche à travers le symptôme de la maladie, la méthode anatomoclinique. Et nous sommes les successeurs de cette méthode anatomoclinique qui a d'un côté généré cette médecine moderne si performante et de l'autre côté tout le questionnement autour du biopouvoir. Donc, il n'existe pas de connaissances qui ne soulèvent pas de nouvelles questions. Et pour terminer avec un dernier auteur au Salon du Livre, Isaac Asimov dit « La connaissance soulève des questions auxquelles l'ignorance ne répondra jamais ».
Jean-Yves Nau, sur cette notion de sens comme barrière efficace contre les dérives potentielles d'utilisation d'une technique comme le CRISPR-Cas9.
C'est une question bien difficile et on n'a plus beaucoup de temps.
Non, mais reste une minute.
Puisque Hervé Schneweis provoque... Je suis bien obligé de citer, alors je n'ai pas le temps de citer Rabelais, qui a labouré le champ sur lequel ont ensuite travaillé Asimov, Foucault et les autres. Mais moi, il y a un film tout simple que je continue à trouver indépassable, c'est Bienvenue à Gattaca, qui pose assez bien la problématique, qui laisse de l'espoir et qui permet d'être vu en famille et qui devrait être montré, me semble-t-il, aux étudiants en médecine, aux collégiens, aux lycéens et aux philosophes.
Jean-Michel Beignet, peut-être un dernier mot.
Oui, le dernier mot, peut-être, ce serait pour dire que, finalement, l'éthique, elle ne s'accommode pas, sans doute, d'une humanité parfaite. Nous sommes dans l'éthique parce que nous sommes imparfaits, nous sommes limités. Et donc, il faut bien considérer que plus nos technologies viseront à réaliser une humanité parfaite, et plus, peut-être, elles s'exposeront à être immorales.
Eh bien, ce sont sur ces mots, après toutes ces références au livre, dans ce contexte du Salon du Livre, que le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Jean-Michel Beignet, Hervé Schneweis et Jean-Yves Nau d'avoir participé à cette émission. Pour approfondir ce sujet, vous trouverez sur notre site les références d'ouvrages sur le thème de notre débat, en particulier ceux de nos invités, parmi lesquels celui d'Hervé Schneweis, intitulé « L'homme réparé », paru chez Plon en 2012, ainsi que celui qu'il a coécrit avec Jean-Yves Nau sous le titre « Bioéthique, avis de tempête et nouveaux enjeux de la maîtrise du vivant » chez Alvic Éditions en 2003. Et l'un des derniers ouvrages de Jean-Michel Beignet, « Demain, les post-humains, le futur a-t-il encore besoin de nous ?» publié par Fayard en 2012. Sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an et nous adresser vos commentaires et réflexions. La semaine prochaine, vendredi 25 mars, vous retrouverez le Club Sciences Publiques autour d'un sujet également passionnant puisqu'il s'agit des illusions produites par notre cerveau. Alors que nous avons l'impression de capter une image fidèle de ce qui nous entoure, de la réalité autour de nous, notre cerveau est loin d'être aussi performant que nous le croyons souvent. Nous débattrons de ces illusions parfois surprenantes avec Éric Bonvin, psychiatre et directeur général de l'hôpital du Valais en Suisse. Nous serons également avec deux membres du Club Sciences Publiques, Pierre-Henri Gouillon et Bruno Falissard. Sciences Publiques, Dany Journeau, Marie Dalquier, Michel Albertanti. Okay.